La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu en Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur. Nous sommes entrés dans ce temps de culte avec le premier mouvement de la sonate en fa majeur du fils de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel. Et je remercie tout de suite Aurélien Peter d'être avec nous à l'orgue ce matin. Nous sommes dans une grande joie ce matin et nous nous réunissons aujourd'hui pour ce culte au cœur de l'été avec cet événement qui nous touche particulièrement ici dans cette communauté, le baptême d'une amie, de beaucoup ici, qui a poussé la porte de ce temple pour trouver une communauté qui accueille sa foi et l'accompagne dans son chemin spirituel. Une amie qui a accepté de servir la parole de Dieu en s'investissant dans le conseil presbytéral. Une amie qui vous a maintes fois accueilli dans ce temple, à la porte du temple, vous l'avez vu souvent, et cette amie c'est Magali. Je souhaite au nom de la paroisse de l'Oratoire la bienvenue aux amis et à la famille de Magali qui sont ici ce matin avec elle, venus spécialement pour partager ce moment important. Quelles que soient vos convictions, quel que soit le chemin que vous êtes en train de parcourir dans votre vie spirituelle, vous partagez avec nous ce moment dans la même communion fraternelle, soyez-en assurés. Alors remettons ce moment heureux à Dieu et que toutes et tous, au loin, derrière votre écran, ou ici dans ce temple, que tous nous soyons rassemblés dans la même amitié avec Jésus qui a dit à ses disciples « Je vous appelle amis ». Nous prions ensemble. Éternel, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église. Permets que nous soyons aussi une communauté de prière et de joie autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Ouvre-nous à ton souffle de liberté et permets que nous soyons une communauté aimante, formée par la foi en toi et en l'homme. Réunissons-nous dans ce temps de culte avec le premier chant du livret inséré dans les psautiers français. Vous avez toutes les réponses de la liturgie au début de ce livre. Nous louons le Seigneur. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons notre louange avec le psaume 66b dans les psautiers français. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur nous redit sans cesse comment être avec lui dans l'alliance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous remettons devant Dieu avec ce qui, malgré tout cet amour donné par Dieu, nous sépare parfois de lui. Et nous le prions ensemble avec cette prière de Søren Kierkegaard issue de son journal. Père aux cieux, ne sois pas avec nos péchés contre nous, mais avec nous contre nos péchés. Qu'ainsi ta pensée, quand elle s'éveille en notre âme et à chaque fois nous rappelle non pas ce que nous avons commis de faute, mais ce que tu pardonnas, non pas comment nous nous sommes égarés, mais comment tu nous sauvas. Le Seigneur nous redit sa grâce sans cesse, sans se lasser jamais. Par l'entremise du prophète Ésaïe, il nous dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. » Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais accueillir maintenant la baptisée de ce jour, Magali. Tu as demandé à recevoir le baptême et c'est ce cheminement que tu souhaites partager avec nous. Alors je te laisse prendre la parole pour témoigner.
Je n'ai pas reçu la parole de Dieu étant enfant ni à l'adolescence, en ce sens que je n'ai pas été éduquée dans la foi, bien qu'issue d'une famille traditionnellement catholique. Les vicissitudes de la vie ont rendu mon parcours personnel parfois difficile, et j'ai connu des moments de grand doute, mais j'avais le sentiment étrange de ne pas être seule. Il ne s'agissait pas d'une présence humaine, mais une présence insondable, et je constatais que dans l'obscurité, il y avait toujours une lueur d'espoir. Puis un jour d'automne 2015, j'ai eu la joie d'écouter des motets de Bach à l'église Saint-Thomas de Leipzig, église dont Bach était cantor et lieu de sa dernière demeure. C'est ce jour-là que tout est devenu évident. J'ai compris que cette présence invisible était celle de l'Éternel et qu'il était à mes côtés depuis longtemps. Je souhaite aujourd'hui confesser ma foi par ce baptême pour exprimer ma reconnaissance et marquer mon engagement envers le Seigneur.
Merci Magali pour ce partage. Avec ceux que tu as choisis comme témoins pour t'entourer, vous allez maintenant vous approcher du baptistère pour que nous puissions procéder au baptême. Est-ce que tu as... Voilà. Ne soyez pas timide. Venez, venez. Oui, on peut être plusieurs, je ne sais pas. Voilà. Alors, vous vous placez par ici, venez. Venez ici, parce qu'on a, on a des gens qui sont avec nous au loin, et donc c'est agréable aussi pour eux de pouvoir participer. Voilà, Aurore, si tu veux bien me rejoindre pour ce moment de baptême. Voilà, représentant le conseil presbytéral qui a accueilli Magali presque très vite après qu'elle soit arrivée dans notre paroisse. Alors, je crois que je vais continuer. Voilà. Je suis un peu émue, excusez-moi, c'est très particulier ces jours-là. Magali, veux-tu confesser ta foi devant cette assemblée ?
Oui. Oui. Alors.
Magali, maintenant, parle en conscience.
Je crois en Dieu, créateur de toutes choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, qui l'emplit de son amour, mon guide et mon soutien éternel. Je crois en Jésus-Christ, notre frère, qui n'a eu de cesse de nous mener sur le chemin de la vérité et qui, en nous annonçant la bonne nouvelle, nous a conduits à nous interroger sur le sens profond de la foi et de l'engagement envers Dieu. Je crois au Saint-Esprit, présent quotidiennement dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, par le souffle de Dieu. Le souffle transforme nos cœurs, nous sanctifie et nous conduit à la vie éternelle. Je crois en l'homme, je crois en ceux qui œuvrent pour la paix et pour une justice triomphante, des innombrables maux répandus à travers notre monde.
Jésus vint de Nazareth et Jean le baptisa dans le Jourdain. Et au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je place toute ma joie. C'est au nom de ce geste inaugural que nous baptisons aujourd'hui. Magali, tu vas être baptisée au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi, et qui t'appelle à son service. Tu vas être baptisée au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, de l'eau tout à fait ordinaire, de l'eau qui n'est absolument pas magique, mais avec cette eau, avec la parole de Dieu, les deux ensemble font que cette eau devienne sacrement du baptême, signe visible d'une grâce invisible, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle, pour ceux qui sont déjà baptisés, que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Magali, veux-tu recevoir le baptême ?
Oui.
Magali, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Magali, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, je vous invite maintenant à vous réjouir ensemble de ce baptême qui a eu lieu maintenant dans notre communauté, ici à l'Oratoire du Louvre. Magali, par ce baptême, est votre sœur ici, dans la joie du Christ. Elle fait partie de cette communauté déjà depuis un moment, mais elle est maintenant, avec ce baptême, enfant de Dieu, aux yeux de tous. Et c'est un changement parce que quand les choses deviennent dites et visibles, les choses changent aussi dans la tête de celui qui fait ce geste. Et j'espère que pour nous tous, c'est un signe aussi que nos communautés sont dans une grande vitalité, qu'il y a toujours des gens qui cherchent le Seigneur, qui cherchent la parole de Dieu dans leur vie et qui cherchent des communautés pour les accompagner sur leur chemin. Nous avons cette responsabilité et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vivre cela avec toi, Magali, aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Magali, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour ses proches. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin et que nous portons dans nos prières et dans notre cœur et que nous associons pleinement à ce moment. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Voilà, je vous invite à regagner vos places et nous allons écouter une improvisation d'Aurélien sur le motet que Magali a entendu à Leipzig en évocation à ce moment inaugural pour elle. lisons maintenant dans la Bible dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, les versets 21 à 27. Jésus parle, il est en plein sermon sur la montagne, il est en plein enseignement. Et il dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Je vous invite à chanter ensemble le cantique qui a été choisi par notre baptisé de ce jour et qui est comme un souffle fragile que vous avez reçu sur une feuille à part. Et Aurélien va nous jouer une première fois la mélodie. Merci. On se lève. Ensemble. Je cherche ton visage, Seigneur, je ne me le cache pas. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher. Où et comment je te trouverai, puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible, mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder. Aide-moi. Apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant, je te trouve, et que je t'aime en te trouvant. Amen. Quelle plus belle image que celle de la maison pour parler de la foi. La maison est, dans l'imaginaire de tous sédentaires, un havre de paix et de sécurité, un refuge, mais aussi un lieu familier, une enveloppe pour les corps, mais aussi pour les idées, lieu de l'intime, domaine intérieur, mais aussi lieu d'où se dit à l'extérieur qui l'on est. La maison est comme un corps autour des corps, une peau qui protège la vie de ses habitants et où personne ne peut entrer sans y être invité, à moins de faire violence, évidemment. Pour le nomade, la maison se fait légère et plus intime encore, car elle s'expose à toutes sortes de rencontres sur le chemin caravanier ou sur celui des grandes transhumances. En cercle concentrique, les lieux que nous habitons s'étendent jusqu'à l'univers lui-même, et l'on peut se dire aussi bien habitant d'une chambre sous les toits que de la terre ou du monde tout entier. Mais ces cercles d'habitat se forment toujours à partir de soi, et de sa propre existence. D'une chambre à soi de Virginia Woolf, au ciel d'Abraham peuplé de sa constellation d'enfants, en passant par le vieux village breton de Kercoan, de Magali, chacun de nous dessine des cercles imaginaires qui délimitent son appartenance, son espace de vie, son intimité, son identité. Les lieux d'ancrage dans nos vies ne sont pas toujours les lieux où nous habitons réellement, mais parfois des lieux d'attachement affectif où nous aurions pu habiter si le monde idéalisé de nos souvenirs existait. Une maison dans une valleuse de la côte normande, un château abandonné, la maison qu'habitaient les grands-parents et qui aujourd'hui n'existe plus, le refuge de haute montagne des randonnées d'été où l'on voudrait rester toujours, ou la maison décrite dans un roman qui nous a touchés. Tous ces lieux sont autant nos lieux de vie que nos adresses réelles, étrangement. Et savoir qu'ils existent, au moins dans notre imaginaire, participe à notre harmonie intérieure. Mais quand Jésus utilise l'image de la maison, c'est pour mettre en garde ceux qui se réclament de son nom pour faire des miracles, des prophéties et des exorcismes. Il crée ainsi un lien entre la construction de la maison et l'autorité dont on se réclame. Ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Autre maison imaginaire où ses disciples rêvent d'entrer en faisant des actes de puissance au nom de celui qu'ils considèrent comme leur maître. Mais le nom du maître ne suffit pas. Encore faut-il qu'il soit employé à bon escient. Les maisons dont parle Jésus sont le fruit d'une construction. Elles ne sont pas déjà construites comme celles dont je viens de parler dans cette énumération. Elles ne sont pas des traces d'un passé et les traces d'autres vies avant nous, non. Elles seront construites par des hommes prudents ou insensés qui doivent créer pour eux-mêmes leur lieu de vie. Le royaume des cieux serait-il à construire par nos soins? La parabole des deux maisons nous le laisse croire, en effet. Il ne s'agit donc plus de trouver sa maison, son havre de paix, mais le bon lieu pour la construire. Il faut partir de rien ou de presque rien, de quelques grains de sable ou d'un rocher. Entendre les paroles du maître et ne pas les mettre en pratique, ou alors entendre ses paroles et les mettre en pratique. Voici le terrain à choisir. Pourtant, les auditeurs de Jésus l'ont écouté et sont allés prophétiser aux foules, faire des miracles de guérison et exorciser les possédés. Alors pourquoi faire devant eux cette distinction? N'ont-ils pas fait tout le travail qu'on leur demandait? N'ont-ils pas servi loyalement? N'ont-ils pas mis en pratique les enseignements reçus? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et c'est là que se révèle le terrain sur lequel est construite la maison. Tiendra-t-elle ou ne tiendra-t-elle pas? Il arrive que l'on fasse dire à cette parabole que, hors d'un enseignement biblique et théologique solide, point de salut. La connaissance devient alors la base propice à toute construction de la foi. Mais nous le voyons aujourd'hui avec le baptême de Magali. Ce n'est pas toujours la catéchèse qui enracine en premier la foi d'une personne. Il arrive même que, sans aucune instruction religieuse ou biblique ou théologique, la lumière de la foi envahisse sa maison intérieure et que l'on cherche à donner un nom à cette lumière après coup, comme si l'on cherchait la langue pour dire ce qui nous est arrivé. Dans la Bible, les spécialistes de la loi et les connaisseurs des Écritures sont souvent montrés comme contre-exemples en matière de fidélité à Dieu et à son enseignement, alors qu'ils en connaissent tous les codes. Alors quel est ce terrain propice à la fidélité dans la foi? Peut-on construire la foi, ou est-ce que Jésus appelle le royaume des cieux qui se construit avec notre foi à devenir notre construction? L'expérience de foi ne semble pas se construire. Les mots pour le dire sans doute, mais l'expérience elle-même, non. Elle semble bel et bien nous saisir. Dans une sorte de rencontre, de rendez-vous à la fois inattendu et pourtant absolument nécessaire. La foi devient évidente alors qu'elle semblait jusqu'alors l'affaire des autres. On entend parfois des témoignages de foi, et si l'on n'est pas soi-même croyant, on a l'impression de ne pas bien voir ce dont la personne parle. En écoutant un motet de Bach, il est possible de vivre une expérience personnelle tout à fait inédite, là où d'autres n'en garderaient qu'une expérience esthétique. Qu'est-ce qui peut bien nous rejoindre quand la foi nous saisit? Et quelle est cette foi si personnelle qu'on ne peut la partager qu'en passant par des rites symboliques comme ce matin, qui permettent d'en rendre compte collectivement et assez imparfaitement, là où elle est si limpide individuellement? La Bible a une formule pour rendre compte de cette évidence. Il fallait que. On trouve souvent cette phrase, comme par exemple quand il est écrit qu'il fallait que le Fils de Dieu souffre beaucoup pour que la parole s'accomplisse. Lecture après coup et toujours après coup de la nécessité des choses. Le « il faut que » de la Bible n'est étrangement pas une fatalité, mais un programme, un enchaînement nécessaire à l'accomplissement. C'est le sentiment qu'on ressent quand la rencontre avec Dieu a eu lieu. Il fallait que cela arrive. Est-ce qu'il fallait se trouver ce jour-là à Leipzig pour entendre un motet et rencontrer Dieu? Dans l'absolu et comme recette pour réussir sa conversion, certainement pas, ça ne peut pas être une recette avant que ça arrive. Mais pour Magali et par sa foi, à coup sûr, oui. Parce que c'était là, parce que c'était ce jour-là, parce que c'était elle, dans son histoire, c'était le moment. Quand Luther dit « Dieu, c'est Dieu pour moi », il rend compte de la façon la plus concise qui soit de l'expérience de foi et de l'intimité que cela représente pour chacun. Cette expérience arrive à des moments très inattendus mais très précis de la vie de chacun, dans un parcours qui semble après coup tracé pour arriver à cet accomplissement et qui pourtant, avant que cela n'arrive, n'aurait jamais pu donner les signes d'un tel accomplissement. Alors quand Jésus parle aux bons élèves qui font tout en son nom et pensent que la foi peut se déléguer, on comprend qu'il puisse les détromper sur cet accès au royaume des cieux dans leur vie. Ils pourront toujours faire tout comme il faut. S'ils le font au nom d'un autre sans l'endosser eux-mêmes, que vivront-ils de cette rencontre? Ils n'ont pas fini d'essayer de gagner leur ciel. Et il prévient en parabole à ceux qui pensent que se réclamer d'un nom suffit pour que sa foi soit contagieuse et fidèle. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le rocher dont parle la parabole des deux maisons n'est pas le maître qui a enseigné aux disciples, et encore moins le prestige de son nom, mais la rencontre personnelle et particulière qui a eu lieu pour chacun avec cette grâce qui précède chacun dans l'amour de Dieu. Et qui était là avant même d'être connu d'eux. Le rocher de la maison, c'est celui d'un Dieu qui veille sur nous avant que nous le sachions. C'est la solidité d'un amour à toute épreuve qui nous attend quelque part. Cette découverte fait tenir dans la tempête et sous les torrents de boue. Parce que celui qui écoute en son cœur cette grâce infinie et la met en pratique, celui qui en vit réellement, c'est-à-dire celui qui en lui donne corps par son existence, ne perdra pas la foi dans l'adversité. Cela ne veut pas dire que ceux qui perdent la foi ont fauté ou s'y sont mal pris. Cela veut dire qu'il y a sans cesse quelqu'un qui croit en nous, avant même que nous croyions en lui, et il arrive parfois que nous ne puissions plus le penser ou le croire, mais cela ne veut pas dire que c'est définitif. Construire sa maison avec Dieu, c'est trouver son ancrage là où la foi nous a saisis, c'est entendre et vivre de ce qu'on entend en soi, c'est vivre selon sa foi et en faire le matériau principal pour construire sa maison. son refuge, mais aussi son lieu d'accueil, de partage et de service. Alors les épreuves viennent, la maladie, le deuil, comme dans toute autre vie. Cela n'est absolument pas une assurance contre le malheur, mais c'est une autre façon de le traverser. Les solitudes trop longues, les blessures d'amour, rien ni personne ne peut empêcher qu'il y ait pourtant cet instant de grâce qui supplante tout le reste. Cette rencontre, quand elle a lieu, est une rencontre qui dure éternellement. Le moment où la vie tout entière trouve sa cohérence au-delà de toutes ses incohérences. Cette conviction qu'il fallait que ce soit, puisqu'il ne peut pas en être autrement, puisque Dieu est là et qu'il ne se peut qu'il ne soit pas là. Cette maison dans laquelle nous sommes réunis ce matin n'est donc pas la maison avec le nom des chrétiens, la maison des protestants, la maison des libéraux ou la maison des spécialistes de la foi. Non, cette maison, c'est celle que chacun construit avec la matière vive de sa foi. Et tous ici, nous sommes assis les uns à côté des autres, ensemble, et nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le fort intérieur de notre voisin ou de notre voisine. Et pourtant, nous sommes tous là ce matin, tous rassemblés, et tous rassemblés à l'écoute d'une même parole, dans un même amour. Non pas parce que nous croyons tous de la même façon, surtout pas, mais parce que nous sommes guidés par une même grâce qui nous a précédés. On y prêche, on y prie, on y discute, on y chante, mais surtout ici, on y construit quelque chose qui ressemble au royaume des cieux. J'ose le dire. C'est en tout cas ce qu'il faudrait que soient toujours les églises, mais nous n'en avons pas toujours conscience. Le rendez-vous de quiconque cherche la grâce de Dieu est là, dans ce moment de réunion que nous avons les uns avec les autres, au nom de cette même grâce. Et nous avons souvent du mal à le savoir, à y croire, à le réaliser, car nous ne pouvons pas parler de cette intimité facilement les uns avec les autres, parce que c'est tellement profond à chacun qu'il est difficile de le partager. Alors souvent nous l'ignorons et nous l'oublions. Une grâce précède chacun ici, et nous sommes tous ici invités par Dieu lui-même, ensemble, à l'écoute de ce qui ne s'est peut-être pas encore révélé complètement pour tous, mais qui est devant chacun, comme une promesse. C'est dans cette maison que nous sommes tous accueillis avant d'accueillir les autres qui, comme nous, sont ou seront saisis par la foi en un amour inconditionnel qui les précède, les attend et veille sur eux. Aujourd'hui, nous avons accueilli celle qui vous accueille depuis des mois ici, à la porte du temple. Et il n'y a aucun anachronisme dans cette réalité. En effet, avant même que s'accomplisse sa foi dans le signe du baptême, la grâce de Dieu avait déjà poussé Magali à mettre en pratique ce que sa foi lui avait appris, servir et accueillir. Magali est venue construire sa maison avec nous, comme vous tous ici, vous êtes venus construire quelque chose de votre vie ici, sur le rocher d'un Dieu qui veillait sur elle alors même qu'elle ne le savait pas encore. Partager cette révélation est un don précieux que Dieu nous fait. Ne l'oublions jamais. Amen. Je vous invite à prendre le psaume 84 qui dit « Dans ta maison, je suis heureux ». Et nous nous levons. Voilà, nous allons partager quelques annonces et c'est Aurore qui va nous rejoindre pour partager ces annonces. Merci Aurore.
Merci Béatrice. Merci Magali. Merci, merci, merci. C'est pas facile de mettre en pratique la parole. Puis quand on fréquente une église, comme tu l'as fait, en n'étant pas baptisée, pas protestante, ben ça n'a pas été facile tous les jours. Et donc à toute l'Assemblée, je pense, et ta prédication était également claire, c'est vraiment important d'être en conscience, mais en conscience pas au nom de celui qui pense avoir dit, mais juste de mettre en pratique, d'accueillir, de servir. Et Magali, tu l'as fait, et je t'en remercie parce que tu l'as fait du fond du cœur. L'oratoire est aussi maison de vie. Alors je vais pas, je laisserai plutôt le pasteur dans sa prière d'intercession en parler, mais vous savez qu'aujourd'hui, ce week-end, c'est les 80 ans de la rafle du Veldiv. L'oratoire a reçu le titre de maison de vie pour avoir sauvé, grâce au pasteur Vergara, à son épouse Marcel, à son assistante Marcel Guillemot, c'est pas une question de prénom, mais et une vingtaine, trentaine de familles. On ne saura jamais si elles étaient baptisées, protestantes ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont levées et elles ont sauvé 63 enfants juifs de la déportation. C'est vraiment en écoutant, et le pasteur Numa Bertrand était le premier aussi à agir à l'époque, en tant que vice-président de la Fédération protestante et pasteur de l'oratoire, ce qui se dit en chair a pour vocation à être pratiqué. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours évident dans les églises, et dans le monde encore moins. Alors, il faut le rappeler de temps en temps, c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous gardons le sourire, et on avance. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé de... Vous savez que nous publions chaque semestre en ce moment, et pas chaque trimestre, chaque semestre, une feuille rose, et le dossier... De ce semestre est sur, vous voyez, un drapeau ukrainien. C'est sur le désir de conquérir. Notamment ce désir de conquérir qu'ont par moments les religions. Et nous nous sommes dit, avec les pasteurs, que c'était important de rappeler un verset qui est Marc 9, 35, et de l'illustrer. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà, nous sommes rarement des grands littéraux à citer la Bible, mais ce verset pour le désir de conquérir, donc vous pouvez prendre cette feuille rose, la distribuer, ça fait réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans notre religion aussi. Ça permet également d'avoir toutes les activités du deuxième semestre et également les activités de cet été qui sont donc culte le dimanche et pause spirituelle le jeudi à l'heure du déjeuner. Le pasteur Béatrice Cléromazir nous accompagne jusqu'au 15 août et Agnès Adeline Schaeffer revient le 15 août. Elles ont choisi le jour de l'Assomption pour faire une passation.
Du calendrier.
Donc, la Sainte Marie, vous échangez vos chairs. C'est voilà. Ça. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est le moment de l'offrande. Et nous avons un principe pour tous ceux qui sont en ligne, parce que tu as beaucoup de monde, Magali, qui a suivi ton baptême en ligne. Vous avez un bouton qui s'appelle le don joyeux. Ici, nous avons le panier digital, sans contact, mais ça reste très joyeux, ou l'aumônière classique. Merci à tous et bon dimanche.
Merci. Voilà, je redonne la parole à Aurore.
Oui, juste pour préciser, pour la feuille rose, pour ceux qui ne sont pas là, vous inquiétez pas, elle part bien demain matin à la poste. Ceux qui ont l'habitude de la recevoir, qui sont nos donateurs réguliers, également, vous la recevrez par la poste la semaine prochaine, sauf si vous nous donnez votre nom et on enlèvera l'enveloppe. Mais elle part bien lundi matin, vous l'avez dans vos boîtes postales, et j'en profite, parce que c'est important de dire merci. Merci à toi, Meux, qui les a toutes mises sous pli, et ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc un grand merci à toi, c'est important de dire merci. Merci.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te disons notre reconnaissance pour tous ceux qui passent la porte de ce temple en recherche ou parce que justement ils ont trouvé ou ils ont été trouvés. Tous ceux qui viennent partager avec nous ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie, ce qu'ils ont de plus intime et qui en font la matière pour construire avec nous ton royaume pour cette terre. Nous te disons notre reconnaissance pour tous ces parcours de vie, que ce soit les familles qui baptisent les petits-enfants comme les adultes qui viennent, parfois tard dans leur vie, parfois bien plus tard que Magali ce matin, et qui nous font partager cette découverte et mettent en pratique les paroles de ton Père. Seigneur, merci pour tous ces moments partagés et qui nous édifient. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont en deuil en ce moment, tous ceux qui viennent de perdre un proche et qui demandent des paroles de consolation, des actions de grâce et de reconnaissance pour la vie de ceux qui sont disparus. Nous te prions pour ceux qui sont proches de la mort. Et nous te remettons ceux qui sont tout près du moment où ils vont partir et leur famille. Nous te les citons dans notre cœur. Permets, Seigneur, que nous soyons des maisons de douceur pour tous ceux qui en ont besoin, de consolation pour tous ceux qui en ont besoin, des lieux où la parole ne blesse pas, mais où elle permet de repartir avec un peu de force. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces familles qui sont rescapés de la rafle du Veldiv, tous ceux qui ont pu échapper et qui pleurent leur mort aujourd'hui. Ils étaient souvent enfants, tout petits dans ce chaos et cette cruauté humaine à laquelle notre pays a participé grandement. Seigneur, que le souvenir nous permette de toujours être en alerte contre tous ceux qui agissent de façon bestiale à l'égard des autres hommes. Que nous soyons toujours attentifs à faire reculer les mouvements de haine. Que nous n'oublions pas pour pouvoir nous aussi agir, car la bêtise et la cruauté ne sont jamais absente de cette terre. Il nous faut sans cesse veiller. Alors Seigneur, avec toi, comme au mont des Oliviers, cette fois nous ne nous endormirons pas et nous veillerons pour que le juste ne meure pas dans l'iniquité et dans l'oubli. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons partagé ici le temps d'une halte dans cette maison de prière. Que la foi de chacun devienne maison de prière pour ce monde. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Dimanche à toutes et à tous. Rejoindre Magali pour signer avec elle. Voilà.